Écho des colonies, Georges Kamoudova.
Toute l'équipe vous dit bienvenue. L'équipe, c'est Jocelyne Moussaou-Pondé qui nous fournit les nouvelles économiques du pays.
Calixte Moukassa prend la place de Paul Fortin. La remise et reprise entre l'adjoint et le patron a eu lieu ce matin à Lubumbashi. Voilà qui confirme le départ du Canadien dont on parlait la semaine dernière dans cette émission. Et de la Gécamine à l'Amiba, nous irons au Kasaï Oriental où la minière de Bakwanga s'est plainte de la spoliation de ce terrain par certains services étatiques.
Et contrat Motogold Mines avec certaines firmes étrangères. Il faut d'abord commencer par délocaliser les populations. Comment va-t-il se faire avec cette opération? Nous parlerons avec Louis Atoum, interrogé par Dorcas Kankou.
Les infos économiques du pays.
La Chine accepte de signer l'avenant qui sanctionne les amendements portés au partenariat sino-congolais.
C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de la Chine en RDC lors de la matinée diplomatique organisée hier par le groupe de presse Le Potentiel. Mais il faut dire que l'ambassadeur prévient que pourvu que ce soit le dernier, tout en ne voulant pas porter le chapeau de l'échec des négociations entre la RDC et le FMI. Selon le diplomate chinois, les contrats chinois ne constituent pas un obstacle sur lequel le FMI devrait s'accrocher pour justifier les multiples reports de la conclusion de ces accords avec la RDC. C'est notamment la non-signature de l'avenant par la Chine qui a fait avorter la réunion du Club de Paris il y a 2 semaines.
Et les opérateurs économiques du secteur pétrolier au Qatar oriental se plaignent des nouvelles exigences de l'Office congolais de contrôle sur, évidemment, les produits déjà dédouanés au point d'entrée au Katanga.
Ces opérateurs économiques considèrent qu'il s'agit d'une tracasserie. Ils sollicitent une concertation et le directeur de l'OCC au Kasaï oriental, Elias Moulenda, explique que son entreprise suit les instructions et l'arrêté interministériel sur le contrôle des produits pétroliers. L'OCC, dit-il, n'exige que des documents aux opérateurs économiques, mais ces derniers n'ont pas apporté des preuves dans les cas sous examen. La ville de Mweneditu étant considérée comme une frontière interne.
Et direction Kikui, dans le Bandundu, où des intrants agricoles ont été distribués hier.
C'était une distribution symbolique aux organisations sémencières villageoises, une distribution effectuée par le vice-ministre du développement rural. C'était au siège du projet de réhabilitation du secteur agricole et rural en sigle PRESAR. Selon le vice-ministre, ces intrants permettront l'augmentation de la production agricole au niveau de la base.
Agriculture toujours à Kisangani. Cette fois-ci, les deux projets dédiés portant organisation et encadrement du secteur agricole ainsi que la réglementation de la gestion des ressources forestières, ces deux édits ont été jugés recevables par l'Assemblée provinciale.
Ces projets dédiés initiés par le président de la commission environnement et ressources naturelles permettra de pousser le gouvernement provincial à adopter une bonne politique d'appui aux acteurs agricoles au niveau rural ainsi que la mise en place d'un réseau pour lutter contre la dégradation du sol, l'exploitation anarchique des ressources naturelles et les réchauffements climatiques.
Merci Jocelyne Moussaou, on vous retrouve dans quelques instants pour l'écho en dehors de la RDC.
La nouvelle économie au bout du fil.
Au bout du fil, ce soir, on retrouve depuis Lubumbashi, Paulin Munanga Kisimba. Paulin, enfin, les suspens est levé. L'administrateur directeur de la Gécamine a démissionné ce matin. La nouvelle du départ du Canadien Paul Fortin avait alimenté d'ailleurs des conversations dans les milieux des agents de cette société depuis plusieurs semaines. Et vous-même, Paulin, vous avez assisté à la cérémonie de remise et reprise ce matin.
Oui, Georges Kamoudova. Paul Fortin est finalement parti après plusieurs épisodes à rebondissement.
Ouais.
Selon lui, il démissionne pour des convenances personnelles. Il dit qu'il est avancé en âge et cela fait près de 4 ans qu'il n'avait pas vu sa famille.
Ouais.
Vraiment, il était temps pour lui de partir. Il a précisé qu'il a fait ce qu'il a pu et qu'il était temps de laisser la place à d'autres personnes pour prendre la relève. Il a insisté sur le fait qu'il fallait des énergies nouvelles à la Gécamine.
Des énergies nouvelles ou jeunes?
des énergies nouvelles selon ses propres termes juridiques.
En tout cas, ça peut vouloir tout dire et ne rien dire en même temps, mais Paul Fortin se plaignait beaucoup du fait que la gestion de la GECAMINE était très lourde.
Effectivement, selon lui, il y avait des instances politiques, des ministères et d'autres institutions du pays qui voulaient toujours avoir la situation sur la gestion au quotidien de la GECAMINE. Avec cela, il dit qu'il n'y avait pas moyen de bien gérer cette société. Chaque matin, en arrivant au bureau, il précise qu'il fallait toujours consulter ou informer différents responsables. Ces genres de gestion sont très lourdes, a-t-il ajouté. Paul Fortin propose que la meilleure solution est de transformer le plus tôt possible la GECAMINE en une société commerciale.
Et une autre raison, semble-t-il, qui a précipité sa démission, c'est peut-être à vous de nous confirmer, c'est le dossier de montant des pas des portes versées par la Chine.
Et il semble que Paul Fortin n'avait pas apprécié le partage de cet argent des pas des portes par le gouvernement central. La part de la GECAMINE serait insignifiante.
Bon, je me souviens qu'au mois de mai dernier, la GECAMINE avait reçu de la Banque centrale 50 millions sur les 100 entendus. C'était après une grève déclenchée d'ailleurs par les majors de cuivre, les agents GECAMINE donc. Mais quelle est la position des travailleurs sur cette démission?
Georges, le président du bureau syndical permanent de la GECAMINE, Prosper Kachoba, regrette ce départ qui, pour les travailleurs, est inopiné. Les travailleurs de la GECAMINE comptaient sur lui, surtout pour la puration des arriérés des salaires.
En tout cas, bon, peut-être ça viendra avec l'autre responsable. Merci beaucoup, Paulin Munanga, de nous avoir parlé depuis Lubumbashi, où l'on écoute Radio Okapi sur 95,8 en FM.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Jocelyne Moussa au point de vue.
Jocelyne, le FMI baisse à 3 400 milliards de dollars le coût de la crise.
En avril, le fonds avançait un montant de 4 000 milliards. Il estime aujourd'hui que la stabilité financière s'améliore, mais que les risques demeurent.
Et Sarkozy a réuni demain les dirigeants des principales banques sur les G20.
Le président français réunira les dirigeants des principales banques françaises pour faire avec eux le bilan du sommet de Pittsburgh aux États-Unis et présenter les mesures qui seront prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les décisions de ces sommets. À l'initiative de la France, les règles sur le salaire dans les milieux financiers seront désormais appliquées par l'ensemble des pays du G20. Le communiqué de l'Elysée précise que la réunion portera également sur les paradis fiscaux.
Merci beaucoup, Jocelyne Moussao, pour toutes ces informations. Et voici la seconde partie de cette émission Éco d'économie qui se tourne vers le Kassai où la société Miba dénonce la spoliation de ses terrains par des services de l'État au Kassai oriental. La minière de Bakwanga parle même des spoliations de ses concessions et certains élèves n'ont pas pu étudier, surtout ceux de l'école secondaire générale technique de Kanchi. Les responsables de la Miba se disent concernés par cette situation. Un reportage de Chris Mukand.
Écho, reportage.
Depuis le mardi matin, les élèves de l'école secondaire générale technique de la Kanchi, SGTK en sigle, sont dans la rue. Ils boycottent les cours, une façon pour eux de dénoncer le lotissement d'une partie de la cour de leur école. Ce coup de colère semble n'être que l'explosion d'une frustration longtemps ressentie. L'SGTK, unique école secondaire de la MIBA, voit ses limites déplacées progressivement, comme l'indique cet élève rencontré.
Bon, à chaque fois, on voit toujours des personnes en train de l'écrire, en train de partager, mettre des bornes, on ne va pas comprendre ce qui se passe.
S'il est avéré que la cour de l'école secondaire générale technique de la Kanchi est spoliée, la brèche a été ouverte par la MIBA elle-même, estime les observateurs. L'SGTK est construite sur l'un des espaces vides de la MIBA. Sûrement pour protéger cet espace contre un éventuel lotissement, l'école a été placée à un endroit et dans une position susceptible de dissuader toute velléité au morcellement. Mais en signant des accords de cession d'une partie de ce terrain avec la province, toutes les envies se sont réveillées. Il est difficile à présent de contenir les ambitions des bâtisseurs. La haute direction de la MIBA appelle l'autorité provinciale à s'intéresser au cas de spoliation des terrains de cette entreprise. Mbuyi Mutombola, l'un des directeurs de la MIBA.
Je voudrais demander à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, dont tout le monde connaît le sens de responsabilité et la sensibilité aux problèmes communautaires, de rappeler à l'ordre certains services techniques de la province qui sont à l'origine de cette situation que nous décrivons. La procédure de rétrocession des concessions de la MIBA est bien connue. Il faudrait que tout le monde la respecte.
Pour leur part, les services techniques indexés, dans ce cas des lotissements anarchiques, réfutent toutes les accusations à leur endroit. Le chef de la division provinciale de l'urbanisme, M. Mbikaï, affirme avoir donné ordre de suspendre les constructions sur la partie du terrain que relaient.
Nos services ne sont pas impliqués. Nos services sont tenus au respect strict du plan qui est approuvé par l'autorité provinciale. J'ai avec moi le plan, mais il y a l'anarchie. Si nos services étaient impliqués, moi je ne saurais pas donner l'ordre de plusieurs qu'on puisse chasser, enlever, déterrer tout ce qui était fait en achetant.
En attendant que les enquêtes amenées avec l'aide des topographes fournissent plus de renseignements sur ce dossier, des gardes miniers et des éléments de la police se regardent en chaîne de faïence. Les premiers sont réquisitionnés pour sécuriser les travaux de construction de quelques maisons. Les gardes miniers, eux, ont le devoir d'empêcher à tout prix l'avancement de ces travaux. Le risque d'affrontement est grand. Pendant ce temps, les cours sont perturbés. Mbojimaï, Chris Mukand, Écho d'économie.
L'entretien de ce soir.
Comment déplacer les populations pour implanter des entreprises minières? C'est l'un des points abordés en début de cette semaine à Kisangani. Les responsables de Motogold Mines ont organisé une séance d'information avec les députés provinciaux. Motogold, qui doit passer à l'exploitation 650 000 tonnes d'or dans les Hauts-Ouélé. Alors, qu'est devenu le projet effectivement de relocalisation des communautés locales dans la région? C'est l'une des questions auxquelles répond le directeur exécutif et directeur général des opérations de Motogold Mine en RDC. Louis Watoum est au micro de Dorcas Cancun.
Les activités sont de plusieurs ordres, social et communautaire d'abord. Il y a la réhabilitation des dispensaires, des hôpitaux, des écoles. Il y a un programme de prévention contre le sida, contre la malaria. Je reviens du site. Nous venons de faire encore une fois les élections pour avoir des délégués communautaires, pour que nous puissions avoir un forum pour le dialogue communautaire, où nous pouvons ensemble définir les politiques de développement communautaire. Du point de vue d'exploration, nous avons encore trois plateformes de sondage qui continuent à faire de l'exploration. Non plus pour découvrir des gisements, nous avons déjà découvert plus de 650 tonnes d'or. Maintenant, c'est beaucoup plus pour avoir une meilleure compréhension en fait de la géologie de ces gisements-là, pour enfin définir comment nous allons approcher l'exploitation minière, soit en ciel ouvert ou en souterrain.
Monsieur l'ADG, dites-nous exactement à ce jour où en êtes-vous avec la relocalisation de populations locales?
Avant tout, j'aimerais quand même peut-être expliquer pourquoi nous faisons cette relocalisation. Cette relocalisation des communautés se fait parce que, en ce moment, nous avons des populations qui vivent sur le gisement, qui vivent sur la zone où le projet doit se développer. Et dès lors, il est important de les déplacer, de les relocaliser dans d'autres endroits pour que nous puissions laisser le terrain libre à la construction des infrastructures minières. Maintenant, où nous en sommes? Nous venons de terminer les consultations avec les communautés concernées. Nous sommes en train de finaliser le recensement. Je crois que dans la semaine qui suit, cela sera terminé. Recensement des personnes, des biens, etc. Et l'étape suivante sera la mise sur pied d'un groupe de travail qui aura en son sein les représentants de toutes les communautés affectées, ainsi que de l'État congolais, pour que nous puissions discuter des politiques de compensation pour ces communautés.
Vous avez découvert 650 tonnes d'or. Ça représente l'exploitation sur quelle durée?
Je crois qu'avec ce qu'on a déjà trouvé, nous avons déjà largement assez. Si nous pouvons déjà produire une tonne d'or par mois pour les 30 ans à venir et même plus, je crois que c'est déjà une très bonne chose.
Mais est-ce que vous disposez suffisamment de capitaux pour vous lancer actuellement à l'exploitation?
J'aimerais d'abord dire une chose. Il nous était très difficile de lever les capitaux tant que nos contrats étaient sous examen. Vous savez que nous étions dans la révisitation des contrats miniers. Il nous était très difficile d'aller parler aux institutions financières. Depuis que l'État a finalisé la revue de nos contrats et que nos contrats ont été approuvés, nous avons toqué à la porte de plusieurs institutions financières. Et malheureusement, il y a la crise financière internationale que vous connaissez tous. Mais il y a aussi le fait que le projet étant situé dans la partie nord-est de la RDC, cela n'est pas toujours très bien vu par les institutions financières qui considèrent cela comme une zone rouge. Et dès lors, nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver la compréhension nécessaire auprès des institutions financières. C'est ainsi que
nous nous sommes tournés plus vers des partenaires miniers comme nous, et nous avons été approchés par une compagnie sud-africaine qui s'appelle Randgold, qui a des opérations minières en Afrique de l'Ouest, pour voir dans quelle mesure prendre le contrôle de ce projet. Parce que là, ces compagnies n'ont pas besoin d'aller toquer à la porte des institutions financières. Ces compagnies ont déjà des opérations minières qui produisent du cash, et donc le cash est disponible. Et donc, pour répondre à votre question, oui, à travers le changement de contrôle que nous allons faire avec Randgold, tous les capitaux seront assurés pour ce projet.
Réalisé par Berry Lucherka, Daniel Tambinzoni à Gatupona, sous la supervision de Ben Kabamba, une mise en onde des héritiers Tidiakala. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain. We'll be right back.